Radio Okapi. Okapi. Le journal Noéla Lusitou Kabambi.
Des nouveaux combats ont opposé ce matin l'armée congolaise au M23 dans le sud du territoire de Masisi au nord Kivu et une bombe pendant ces affrontements a fait au moins 3 morts à Bweremana. Hausse de la criminalité en Mbujima et au Kasai oriental, 2 suspects ont déjà été arrêtés le week-end dernier après une tentative de vol à main armée au quartier Snell. David Chilumba, directeur général de la Régie des Eaux, est l'invité de ce journal. Il va parler des difficultés de la Régie des Eaux pour étendre ses réseaux de distribution d'eau potable dans la commune de Lancélé. Bonsoir à tous. Au Nord Kivu, de nouveaux combats ont opposé ce mardi matin l'armée congolaise au M23 autour de l'axe Bweremana-Chacha dans le sud du territoire de Masisi. Nos sources dans la région déplorent la chute d'une autre bombe pendant ces affrontements et qui a fait au moins 3 autres morts à Bweremana. Bernard Danyangi.
C'est entre 5h40 et 9h locales que ces combats ont eu lieu sur les collines Kabase, Kiluku et Kashingamutu, surplombant la localité de Chacha en territoire de Masisi, indiquent nos sources à Bweremana. Selon ces sources, si un calme précaire est observé, une autre bombe présumée avoir été larguée par les rebelles du 23 est tombée autour de cette heure locale sur le domicile d'un notable de la place, à Nyamuma, une fois encore, dans l'agglomération de Bweremana. Le bilan provisoire fait état de 3 morts, dont un militaire FARDC décédé sur le coup, ainsi qu'une femme et son enfant qui ont succombé à leurs blessures à l'hôpital. 4 autres civils ont été blessés. Ajoutez à ceci le bilan définitif des 4 morts et 4 blessés d'un autre bombardement similaire hier lundi. C'est maintenant un total de 7 morts et 8 blessés ces 2 derniers jours à Bweremana. La société civile à Bweremana encourage la prise en charge des blessés et le soutien aux familles des victimes par le gouverneur militaire du Nord Kivu. Elle déplore tout de même la panique qui s'empare de la population civile à la suite de cette escalade de violence dans la zone en violation de la trêve humanitaire de 2 semaines à la demande des États-Unis d'Amérique. Goma, Bernard Dinyangi, Radio Okapi.
La dégradation de la situation économique, sociale et humanitaire due à l'insécurité dans la ville de Goma et ses environs est au centre d'échange à Goma. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, après l'étape de Butembo, séjourne donc à Goma depuis hier lundi et y poursuit des consultations avec différents acteurs politiques et civils. Au sortir de ces échanges, le président de l'Assemblée provinciale, à la tête de la délégation des députés provinciaux qui ont été reçus, dit se réjouir du fait que le chef de la territoriale ait été réceptif à leurs préoccupations. Robert Seninga est dans ses propos recueillis par Bernard Danyangi.
Nous avons échangé avec lui sur la situation sécuritaire, mais aussi sur la situation humanitaire qui est catastrophique au niveau de la province de Nord Kivu, sans oublier aussi la situation économique qui se dégrade de jour au jour. Les députés ont eu à donner les informations exactes et correctes au VPM, et le VPM a été réceptif que les députés leur ont parlé par rapport à la situation sécuritaire, notamment la guerre nous imposée par le Rwanda avec ses supplétifs, le M23, mais aussi la recrudescence de la criminalité au niveau urbain, que ce soit à Goma, à Butembo, surtout la crise humanitaire qui s'annonce avec 7 millions de déplacés, c'est trop grave. Le VPM a promis de s'y pencher sur cette question.
En plus bref, notez que le vice-premier ministre de la Défense, Guy Kabombo, est arrivé ce mardi à Kikwit dans la province du Kwilu. C'est dans le cadre d'une tournée dans l'ex-Bandundu, une zone affectée par le conflit communautaire entre Teke et Yaka. Hier, il était dans la province du Kwango où il a présidé le Conseil provincial de sécurité. À cette occasion, le commandant de la 11e région militaire, le général Jonas Padiri, a fait un état des lieux de la situation sécuritaire dans cette zone et a présenté le résultat de l'opération Ngemba dans l'axe Kwango. Selon le compte X du ministère de la Défense, cette visite permettra au patron de la Défense nationale de s'enquérir de la situation sécuritaire dans cet axe opérationnel de Kwango et de palper la réalité de terrain. Et puis arrivé ce mardi à Beni, des premiers éléments de l'unité d'aviation pakistanaise de la MONUSCO. Ces casques bleus en provenance de Bukavu au sud Kivu, la MONUSCO a cessé ses activités le 30 juin, interviennent dans le cadre du support aérien. Avec leurs hélicoptères qui peuvent voler sur une distance de 500 km, ils appuient les opérations de la MONUSCO dans le transport des troupes, y compris des FRDC, mais aussi dans l'évacuation des malades et des blessés, sans oublier des opérations de recherche et de sauvetage. Cette unité d'aviation quitte le sud Kivu et sera désormais basée à Beni, au nord Kivu. Dans la province de la Tchopo, l'archevêque métropolitain de Kisangani se dit satisfait de ses deux mandats à la tête de la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO. Devant la presse locale hier, Mgr Marcel Outembi Tapa a énuméré certaines réalisations à l'actif de son mandat de 8 ans à la tête de l'épiscopat congolais, notamment l'engagement de la CENCO dans la recherche des solutions de pacification et de décrispation politique en RDC. Mgr Marcel Outembi revient sur quelques grands moments sur le plan ecclésial et sociopolitique. Ces propos ont été recueillis par Jacques Moukonkole.
Ce qui se passe au nord Kivu, en Ituri, mais aussi dans la province de la Tchopo. Ces conflits violents ont déjà fait beaucoup de victimes. Nous avons abordé aussi cette question pour solliciter l'implication personnelle du président de la République. Il s'est engagé pour que des solutions idoines soient trouvées. J'ai pris la responsabilité de conduire la conférence épiscopale nationale du Congo en juin 2016. C'était la période où les tumultes politique était assez forte. Il fallait préparer le processus électoral pour que tout se passe de manière apaisée. La présidence de la République avait fait appel à la Conférence épiscopale nationale du Congo pour des beaux offices. Et c'était sous ma vigilance à accoucher de ce que l'on a appelé l'accord politique inclusif du centre interdiocésain, accord de la Saint-Sylvestre, réunir les acteurs politiques à pouvoir relancer le processus électoral qui a abouti aux élections de 2018. Cette dynamique nous a conduit à mener des plaidoyers au niveau national, régional et sous-régional pour montrer l'implication de la Conférence épiscopale nationale du Congo dans la recherche des solutions de pacification, de décrispation politique dans notre pays.
L'archevêque de Kisangani n'a pas non plus oublié de citer à son actif l'organisation de la visite du pape François à Kinshasa à la fin du mois de janvier 2023. Nous en parlions dans le sommaire. Au Kassai oriental, quelques cas de criminalité sont enregistrés ces derniers temps dans la ville de Mbujimayi. Deux suspects, dont un blessé par balle, ont même été arrêtés le week-end dernier après une tentative de vol à main armée au quartier Snell. Les enquêtes sont ouvertes au niveau de la police nationale congolaise pour identifier les différents groupes de bandits qui insécurisent les habitants de Mbujimayi. Explication Esther Ndalafina.
Le dernier cas en date est celui d'une femme blessée par balle perdue la nuit dernière à la cité Miba. Les sources sur place affirment qu'un groupe de voleurs qui échappait à la vindicte populaire après une tentative de vol à main armée a tiré plusieurs coups de feu pour s'effrayer un chemin. La femme qui était chez elle a reçu une balle perdue. Elle est actuellement dans un centre hospitalier pour des soins. La nuit de samedi à dimanche dernier, un groupe de bandits a fait irruption au domicile d'un habitant au quartier Lubwebwe dans la commune de Bipemba. C'est hors la loi, lui ont logé quelques balles qui ont été retirées de son corps quelques heures plus tard. La nuit de mardi à mercredi dernier, un autre groupe de bandits s'est introduit au domicile d'un habitant sur l'avenue de la Source pour arracher l'arme d'un policier de garde. L'un d'eux a été maîtrisé. Témoignage de Charles Kamanga, propriétaire de la parcelle.
Le policier a tout fait pour le loger la balle au niveau du bras. Il l'a maîtrisé et nous avons appelé la police pour constater la situation.
Au niveau de la police, on signale que les enquêtes sont ouvertes pour identifier ces groupes de bandits qui s'aiment la terreur sur la ville. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Pendant ce temps, dans la province du Tanganyika, évasion de tous les détenus de la prison centrale de Manono dans la nuit de dimanche à hier lundi. D'après le porte-parole de la société civile de Manono, plus de 80 détenus se sont échappés après avoir creusé un tunnel. Abbé Moïse Kilouba demande à la justice d'établir les responsabilités et de sanctionner les coupables. Il est joint par Paula Monanga.
On a entendu vers 20h les crépitements des balles et on se réveille le matin, on nous parle de l'évasion des 81 prisonniers. Et donc, toute la prison de Manono, la prison centrale, s'est vidée de ses détenus. Et il n'y a aucun détenu. En faisant la patrouille la nuit, les patrouilleurs ont ramassé un détenu qui n'était pas encore condamné, mais qui est taxé de vol à main armée, et un autre qui avait tué son père. Et ce sont ces deux personnes-là qu'on a retrouvées dans les 81. Les prisonniers ont creusé un trou à partir de la prison jusque dehors, et le trou de 3,20 m, 3,40 m de profondeur, et puis ils ont remonté encore pour émerger sur la surface. Nous avons trouvé que c'est une négligence, que vraiment les services de la justice s'impliquent pour établir la responsabilité de tout et chacun.
Et puis en Ituri, deux corps sans vie, les corps d'un couple, ont été découverts hier lundi au village de Bandundundu, dans le territoire de Mambasa. Selon la nouvelle société civile congolaise locale, les victimes sont des agriculteurs. Ils ont été tués par des bandits armés pendant qu'ils travaillaient dans leur champ de cacao. Cette structure citoyenne attribue ce double assassinat à certains habitants qui se déguisent en rebelles ADF dans l'objectif de voler des produits champêtres, notamment le cacao. Elle condamne cette pratique qui, selon elle, devient courante dans cette région. Babombi Endela Moussa, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise de Mambasa, appelle les services de sécurité à mettre hors d'état de nuire ces personnes qui perturbent la quiétude de la population. Il le dit au micro de Martial Kizabiamungu.
La nouvelle société civile congolaise dans la chefferie de Babila Babombi, en territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri, appelle une fois de plus la population de faire une résistance populaire aux hommes de mauvaise volonté qui se déguisent aux ADF pour piller nos champs en récoltant les produits champêtres du cacao à l'est de Biakato. Après avoir fait une analyse, nous avons trouvé des civils ont été exécutés à Nakota 3, dans le village Bandundundu, dans le groupement Bangole. Nous sommes dans la chefferie de Babila Babombi. Nous refusons cette pratique et nous condamnons ça avec toute dernière énergie. Nous demandons aussi aux services de sécurité de fournir les efforts pour neutraliser tout ce monde-là qui est en train de faire cette pratique à l'est de Biakato.
Retournons dans la province du Tanganyika, à Kalemie cette fois. Les conseillers municipaux dénoncent les mauvaises conditions de travail. Ils annoncent que la collaboration avec les autorités communales reste tendue et très difficile. Ils l'ont fait savoir hier à Radio Okapi. Ainsi démentent-ils aux autorités de leur doter des moyens et d'organiser dans un meilleur délai les élections des bourgmestres et bourgmestres adjoints. Paula Munanga.
Les conseillers municipaux de Kalemie revendiquent entre autres leurs émoluments, les frais d'installation, les frais liés aux commissions installées et les frais de fonctionnement. Eric Erimirindi, conseiller municipal de la commune de Kalemie, indique que pour le moment, ils vivent grâce au peu d'argent qui émane des taxes perçues dans différents marchés de la commune.
La commune ne vivait que des taxations, il y a ces petits liens 500 francs qui proviennent de marchés, parce que chacune des communes a un certain nombre de marché, et c'est sur base de ces petits riens-là que notre commune vit actuellement. Par semaine, ils ont une affaire de 300 000 francs. Nous, au total, nous sommes 7 conseillers municipaux. Il y a le collège exécutif communal, donc le staff de bourgmestre. Quand vous faites les calculs de tout, vous voyez ce que ça vous donne. Donc, à la fin de la semaine, vous avez une affaire de moins de 10 dollars, 20 000 francs.
Le conseiller Eric Herry ajoute que la collaboration est difficile avec les bourgmestres. Il fait savoir que ces derniers disent avoir été nommés par ordonnance présidentielle et ils n'ont aucun compte à rendre aux conseillers municipaux. D'où son appel aux autorités du pays d'organiser les élections des bourgmestres et leurs adjoints dans un meilleur délai. Kalemie, Paul Munanga, Radio Okapi.
Parlant infrastructure au Kasaï oriental, le gouverneur de province n'apprécie pas les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1, axe Mbujimayi-Mweneditu, dans sa partie comprise entre la localité de Benabilonda, à plus de 20 km de Mbujimayi, et Lukalaba, à plus de 50 km de la ville. Au cours de la visite effectuée le week-end dernier avec les membres du Conseil provincial de sécurité, Jean-Paul Mbueboa-Kapo a manifesté ses inquiétudes quant à la qualité des travaux ainsi que des matériaux utilisés par l'entreprise Grexet sous le contrôle technique de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT. Explication Esther Ndalafina.
Au cours de cette visite des travaux sur la nationale numéro 1, le gouverneur de province a déploré la largeur de la route, le volume des bitumes posés sur la RN1 ainsi que la qualité des matériaux utilisés. Après les explications fournies par le responsable de l'Agence congolaise des grands travaux, Jean-Paul Bouboué s'est dit déçu par la qualité du travail effectué par Grec 7 sur la RN1.
Je n'ai pas été satisfait du travail qui a été fait. J'ai été quelque peu déçu. J'ai fait les remarques à l'Agence congolaise des grands travaux et même l'entreprise qui exécute les travaux.
Cependant, l'entreprise Grec 7 a déjà travaillé sur près de 30 km, donc dans la partie comprise entre les localités de Benabilonda et Lukalaba. Ingénieur Gilbert Kapoukou Nindou, directeur provincial de la CGT, rassure l'autorité et la population que les travaux seront bien effectués pour faciliter la circulation des personnes et de leurs biens sur cette route. Signalons que l'autorité provinciale attend obtenir de l'entreprise Grec 7 le cahier des charges des travaux qui sont en pleine exécution sur la RN1. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
200 policiers kényans supplémentaires ont été déployés en Haïti dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU pour tenter de lutter contre la violence des gangs devenus endémiques en Haïti. Le Kenya a déjà envoyé quelques 400 agents à Port-au-Prince, la capitale haïtienne, en juin. Le Kenya est à la tête d'une force qui devrait compter au total quelques 2500 personnes qui travaillent en étroite collaboration avec la police nationale haïtienne. D'autres pays, principalement d'Afrique et des Caraïbes, contribuent également à la mission qui est soutenue mais pas gérée par les Nations Unies.
L'invité.
À Kinshasa, la régie des eaux éprouve des difficultés énormes pour étendre ses réseaux de distribution d'eau potable dans la commune de Lancelé, par exemple. Les recettes réalisées ne permettent pas à cette entreprise publique de satisfaire des milliers de ménages dans une commune en perpétuelle croissance et qui manque d'eau potable. Radio Okapi a invité David Chulumba, directeur général de la régie des eaux, pour en savoir plus et s'entretient avec Askin Zigbia Tayoro.
Bonjour, monsieur David Chulumba.
Bonjour.
Nous avons constaté qu'il y a la croissance démographique dans la commune de la Célé. Il va de pair avec la croissance de ménages. Il y a plusieurs familles qui s'installent par-ci, par-là dans la commune de la Célé et ils n'ont pas l'accès à l'eau potable de la Régie des Eaux. C'est impossible pour la Régie des Eaux d'étendre ses réseaux de distribution d'eau à cette partie de la capitale.
Bon, merci pour la question, merci aussi pour l'opportunité. Quand on fait le lotissement, en principe, nous aurions aimé être capables d'accompagner ce lotissement avec un service public d'utilité en termes d'adduction, traitement, distribution d'eau pour qu'on amène de l'eau dans chaque nouvelle parcelle qui est créée à Kinshasa. Mais à ce jour, cela n'est pas nécessairement possible parce que d'abord, le lotissement n'est pas planifié avec nous. On ne sait pas où est-ce qu'on va lotir. Mais aussi, pour ajouter à cela, notre capacité est limitée. Mais cependant, il y a beaucoup de projets en cours, notamment le projet d'un grand centre de traitement à Maluku qui devra produire près de 300 000 mètres cubes d'eau dans les hauteurs de Maluku et qui devra alimenter la partie incellée descendant jusqu'au niveau de l'aéroport de Njili. C'est un projet qui demande plus de 500 millions de dollars d'investissement. Le gouvernement est au courant, nous discutons aujourd'hui, non seulement avec le gouvernement, mais aussi avec les bailleurs, pour arriver à exécuter ce projet à l'échelle peut-être 2028-2030.
Alors maintenant, c'est une réalité qu'il y a des ménages qui se sont installés. Et le besoin en eau potable est vraiment réel. Est-ce que au niveau de la Régie des Eaux, avec les différentes recettes que vous réalisez avec les abonnés qui sont actifs, est-ce que vous ne pouvez pas faire le miracle pour donner de l'eau quand même à la population de la Célé en attendant de gros projets?
Avec nos recettes, c'est assez difficile, extrêmement difficile compte tenu du niveau de nos recettes, parce que nous avons des prestations qui sont déjà au-delà de 65% des recettes que nous faisons. Et en plus de ça, nous avons des très mauvaises dettes, des gens qui ne payent pas. Et comme je vous l'ai toujours dit aussi, l'État consomme près de 40% aussi, pas plus, de la valeur du produit que nous vendons chaque jour. Et l'État n'arrive pas à payer cette valeur, ça nous met effectivement dans des conditions difficiles. Nous travaillons avec l'État chaque jour pour arriver à trouver une solution. Donc on espère qu'on y arrivera.
Ça ne peut pas marcher avec les partenaires qui peuvent appuyer la régie des eaux pendant que le gouvernement est encore en train de traîner les pas. Est-ce que la régie des eaux ne peut pas voir ailleurs signer partenariat public-privé et ça ne peut pas arranger la chose?
Les partenariats publics-privés, nous en voulons, nous en cherchons. Nous avons quelques cas des partenariats publics-privés, sociétés des projets, SPV, qui sont en cours. Mais la grande difficulté, c'est que le prix de l'eau, il est trop bas. Et comme le prix de l'eau, il est trop bas, le tarif n'est pas rémunérateur. À la régie des eaux, nous produisons de l'eau à l'équivalent de 1,15 dollars par mois, mais nous vendons à 85 centimes de dollars par mois. Donc sur chaque mètre cube d'eau que nous vous envoyons sur le réseau, nous perdons 30 dollars. Parce que le prix de l'eau est fixé par le gouvernement. C'est très difficile au privé de venir investir dans ce secteur avec un tarif qui est fixé à 85 centimes le mètre cube par l'État congolais, si le coût de production est élevé. Personne n'investit de l'argent pour perdre de l'argent. Et d'ailleurs, je crois que l'État lui-même s'est rendu compte que c'est un problème. Il y a des discussions avec l'État pour nous permettre d'ajuster le tarif pour couvrir ne fût-ce que les coûts opératoires et peut-être avec un niveau de profit qui est régulé parce que nous avons la loi sur l'eau qui régule le secteur. Mais je voudrais quand même annoncer à la population de Kinshasa que très bientôt, nous allons lancer la campagne des raccordements sociaux. Alors, avec les raccordements sociaux, nous allons réduire sensiblement le coût du raccordement allant peut-être de 250 dollars, parfois à 50 dollars, parfois à 100 dollars, parfois à légèrement moins, compte tenu des quartiers, du niveau de revenu de chaque quartier. Et avec cela, nous pensons donner de l'eau à un peu plus de gens qui, naturellement, ont besoin de l'eau, mais n'ont pas accès, même au peu de ressources que nous avons, parce que le raccordement coûte cher. Merci.
Merci beaucoup.